hors champ. Bonsoir à toutes et à tous, hors champ ce soir en compagnie de Eugène Green. Eugène Green, vous êtes cinéaste, écrivain, homme de théâtre. Vous avez passé toute votre enfance aux États-Unis. Vous êtes né à New York en 1947. Et pourtant, vous détestez ce pays que vous ne nommez jamais. Donc, je ne sais pas si vous allez prononcer, là, ça serait un scoop pour hors champ, ce mot des États-Unis, parce que vous avez trouvé un autre nom pour nommer ce pays dont vous êtes issu, originaire, et dont vous avez sans doute la nationalité encore, non ?
Oui, mais j'ai aussi la nationalité française.
Ah bon ? Alors vous nommez ce pays la Grande Barbarie.
Ou la Petite.
Ou la Petite Barbarie. Pourquoi ?
Bon, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans mon adolescence. C'est par rapport à, comme pour moi, tout existe à travers le langage. C'était pour lui donner un nom, c'est le faire exister. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement en tant que pays comme la France ou l'Italie ou le Portugal.
Pourquoi ? À cause de ces langues, justement, que possèdent l'Italie, le Portugal et la France ? Vous pensez que la langue américaine n'est pas une langue ?
Non, l'idiome sonore qui est utilisé là-bas, c'est un peu comme le sabir qu'on utilisait autour de la Méditerranée pour faire du commerce et qu'on trouve dans les pièces de Molière quand les personnages sont censés parler en turc. Mais c'est pas vraiment une langue. Bon, il y a certains écrivains qui trouvent une forme d'anglais pour écrire là-bas. Mais ce qu'on utilise dans la vie courante, ce n'est pas vraiment une langue pour moi.
Mais Faulkner et Steinbeck doivent se retourner dans leur tombe s'ils vous entendent.
Bon, eux, ils ont peut-être créé une langue. Ce ne sont pas des auteurs, ce ne sont pas mes auteurs préférés, de toutes les façons. Mais c'est une langue, en tout cas, littéraire. Mais ça ne part pas de la langue vivante du pays, puisque c'est autre chose.
Mais justement, j'ai cru comprendre, Eugène Green, que dans votre histoire, dans votre passion de la langue et des langues, ce qui vous intéresse, c'est la source, c'est l'origine.
Oui, mais justement, c'est-à-dire, c'est la langue comme corps sonore, comme réalité sonore. Et là, c'est quand j'entends des gens de là-bas qui parlent, c'est très pénible.
Des gens de là-bas, hein, vous avez dit. C'est-à-dire que vous voulez dire que quand vous entendez parler anglais, c'est-à-dire américain, dans l'usage courant, ça serait une langue pour vous polluée par l'argent, par l'idée même de l'argent.
Disons que c'est plus que ça, mais c'est, oui, c'est une langue qui sert essentiellement, enfin, c'est un idiome sonore qui sert essentiellement pour faire des affaires. Et les gens de là-bas, donc, c'est leurs liens entre eux, c'est essentiellement des liens commerciaux. Sinon, ils vivent chacun dans leur coin, dans leur communauté, mais il n'y a pas d'identité réelle comme pour les Français ou pour les autres pays d'Europe, qui est fondée sur une histoire commune, sur une langue commune, sur une culture commune.
Qu'est-ce qui vous a décidé à partir de ce pays dont vous ne voulez pas prononcer le nom, Eugène Green ?
J'ai décidé quand j'étais très jeune, quand j'avais 11 ans, c'était par rapport à la langue. Dans un premier temps, je pensais aller en Grande-Bretagne et apprendre l'anglais. La langue anglaise existe réellement en Grande-Bretagne et en Irlande, mais ça ne me correspond pas réellement. Le français me correspond beaucoup plus.
Vous avez été bien accueilli en France ? Avez-vous appris le français très rapidement ?
C'était un peu difficile les premières années, puisque ça arrive souvent, j'étais assez seul. Mais après, oui, j'ai été bien accueilli, au moins au niveau des relations personnelles. Professionnellement, c'était beaucoup plus difficile de me faire accepter. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à me faire accepter comme français. Pourtant, j'ai fait tout mon travail artistique en français et en France ou à partir de la France. Mais Bon, c'est comme ça.
Vous êtes cinéaste, Eugène Green, et quand on voit vos films, on ne peut éviter de penser à l'un de nos grands maîtres français que nous allons écouter. Il s'agit de Robert Bresson.
Vous écrivez dans ce petit livre « cinématographe » et non pas « cinéma ». Est-ce qu'il y a pour vous une différence ?
Bien sûr, d'abord, il y a le mot grec « graphène », écrire. C'est pour moi, le cinématographe, c'est une écriture avec des images en mouvement et des sons, et non pas la reproduction photographique d'un spectacle donné par des acteurs.
On dit beaucoup que vous supprimez toute part d'improvisation ou d'inattendu dans votre travail. Alors où se situe ?
Au contraire, je veux dire que j'improvise de plus en plus et j'attends l'inattendu.
Mais l'inspiration, vous la trouvez où ?
Je la trouve d'abord sur papier, tout seul, entre quatre murs, et ensuite, je l'attends surtout, et d'une façon tout à fait intuitive, comme devrait être l'inspiration, pendant que je tourne. Et c'est pour ça que je viens de vous dire que j'essaie d'improviser de plus en plus.
On dit souvent que vous n'aimez pas les vedettes, que vous appelez les comédiens des modèles.
Je les aime beaucoup, mais je les aime au théâtre. Mais je ne vois pas ce que les acteurs viennent faire dans une projection de film qui n'est pas la reproduction du théâtre, mais qui est une écriture, avec, je le répète, avec des images en mouvement et des sons.
C'est pourquoi vous les appelez des modèles.
J'appelle des modèles, je n'ai pas trouvé d'autre mot, mais ce mot modèle correspond en effet au modèle des peintres ou des sculpteurs. C'est un modèle plus intérieur. J'essaie d'attraper à l'intérieur des choses que le peintre ou le peintre arrive à les attraper. Par exemple, le peintre de portrait arrive à donner un quelque chose de profond dans son tableau, mais avec des moyens qui ne sont pas. Mais je crois que s'il y a psychologie dans ce que je fais, psychologie que je repousse toujours, je repousse la psychologie, qu'on peut expliquer à l'avance, en somme. C'est que j'essaie une psychologie qui se fait au fur et à mesure grâce à deux merveilleuses machines que je dis sublimes, c'est la caméra et le magnétophone.
Vous dites qu'il faut habituer le public à deviner le tout dont on ne lui donne qu'une partie. Il faut faire deviner. Je me souviens,
bien
par
sûr,
exemple,
parce que ce que je reproche au cinéma actuel, c'est de ne rien laisser faire à l'imagination. Or, comment pourrions-nous vivre sans imagination ? Si on fait perdre l'imagination du public, tout art, aucun art n'existe plus. Mais je fais, vous savez, ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'on ne peut travailler qu'en essayant ce qu'on fait au moment même sur soi-même. Je crois qu'il est niais de penser, il est niais. Il est stupide de penser de travailler pour un public. On travaille pour soi, et c'est soi-même qui est le public. Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement ?
Deux mots reviennent fréquemment dans vos formules et les aphorismes des notes sur le cinématographe. Corps et mouvement, que vous alliez très souvent à la pureté. Est-ce que vous êtes un alchimiste de la pellicule ou alors un saint de l'image ?
Je crois que dans toute création, il y a de l'alchimie. Je crois que toute création doit se faire inconsciemment. Dès qu'on essaie d'éclairer cette chose obscure, on ne la fortifie pas. Il faut pouvoir réfléchir dans les intervalles du travail, et puis quand on travaille, se laisser conduire par des forces qui sont obscures et qu'on n'a aucune raison d'éclairer, ni aucun avantage à éclairer.
Robert Bresson, les bruits joue un grand rôle dans vos films, le silence.
Bien sûr, le silence, et je dis, le cinéma sonore a inventé le silence. En effet, avant le cinéma sonore, il n'y avait pas de silence. Mais je voudrais réparer une petite lacune du livre, qui est, quand je parle de la musique, je ne dis pas de musique du tout, sauf la musique, bien entendu, jouée par des instruments visibles. Mais je crois tout de même que la musique... Je suis absolument contre l'orchestre fantôme qui jette le film qui élimine la vie même du film, qui le fait sortir, qui l'isole de sa vie propre. Mais je suis sûrement pour la musique jouée par des instruments visibles, mais une musique qui alors joue le rôle d'un élément transformateur. Je dis, il n'y a pas d'art sans transformation, et la musique est capable de transformer. Et à ce moment-là, elle est non seulement intéressante, mais absolument indispensable à l'écran.
C'était Robert Bresson en 1975 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. au moment de la publication de ce livre absolument extraordinaire et qui demeure aujourd'hui d'une très grande contemporanéité, qui s'intitule « Cinématographe ». Eugène Green, j'ai l'impression que Robert Bresson fait partie de vos maîtres tutélaires.
Oui, il est évident que Bresson a exercé une grande influence sur moi. Surtout quand j'étais très jeune, je l'ai découvert quand j'avais 19 ans. Et j'ai vu donc, le premier de ses films que j'ai vu, c'était Le journal d'un curé de campagne. Et puis ensuite, j'ai vu tout ce qui existait. Et dans les années 60 et 70, donc j'ai vu les nouveaux films qui sortaient jusqu'à L'Argent en 1983. Mais entre la sortie de L'Argent en 83 et le tournage de mon premier film Toutes les nuits en 99, je n'ai vu aucun film de Bresson. Donc c'était une culture assimilée qui a eu le temps de s'intégrer, et il est évident que c'est le cinéaste qui a eu la plus grande influence sur moi.
En tout cas, vous vous revendiquez de ce cinéma sans personnage, de ce cinéma aussi où la musique, si elle joue un rôle, doit être visible, où les sons sont très importants et où c'est au spectateur lui-même de se faire son propre scénario.
Oui, disons que ce que vous dites à propos de la musique, ça c'est absolument vrai, et les sons. En ce qui concerne les personnages, il y a des personnages dans mes films, mais ce sont pas des personnages psychologiques. Je m'intéresse plutôt à leur intériorité, un peu comme Bresson. Et puis le scénario aussi, il y a un scénario qui est là, qui est très construit, mais c'est pas... J'aime effectivement qu'il y ait des ellipses, j'aime montrer des fragments pour que l'imagination du spectateur restitue ce qu'on ne voit pas, parce que parfois ce qu'on ne voit pas est plus important que ce qu'on voit.
Vous avez évoqué votre premier film « Toutes les nuits », ensuite il y a eu « Le pont des arts »,
et le monde vivant. Entre
et
les
le
deux.
Monde vivant. Nous allons écouter tout de suite un extrait du Pont des Arts. Il s'agit du début du film. Vous allez comprendre, vous qui nous écoutez, les enjeux et les problématiques du Pont des Arts dès le début.
Pascal.
Qui est là?
C'est moi, Christine.
Qu'y a-t-il?
Je m'en vais. J'ai cours à 8h30.
Bon cours.
Ne te lèves-tu pas?
Moi, je n'ai pas cours.
Mais tu dois travailler.
Pourquoi?
Pour finir ton mémoire de maîtrise.
Pourquoi?
Ne veux-tu pas commencer à vivre?
Je suis déjà vivant. J'essaie d'en profiter un peu.
Crois-tu que cela m'amuse, ce que je fais?
Que fais-tu?
Tu le sais très bien. Je prépare la grecque de philo.
Ah, ça. J'espère que cela t'amuse, vu le temps que tu y passes.
Je pense à l'avenir.
En ce qui me concerne, je crois pouvoir vivre ma vie sans avoir fait une maîtrise sur la transcendance matérialiste chez André Breton.
Assume ton choix.
Je n'ai rien choisi. C'est la prof qui me l'a imposé. Je ne sais même pas ce que c'est.
2 ans dessus, et tu ne sais pas ce que c'est?
Non. Et je ne le saurai jamais. Donc ce n'est pas la peine de me réveiller.
Tu es vraiment un drôle de mec.
Voilà, l'histoire se passe... au tout début des années 80, 79-80, à Paris. Et c'est l'histoire d'un amour qui est aussi un désamour, puisque elle est chanteuse de musique baroque. Et on verra à quel point cela a de l'importance pour le film, mais aussi dans votre vie, Eugène Green. Et lui, comme souvent les garçons, hein, vous avez remarqué, les garçons sont un peu plus paresseux que les filles. Il veut faire de la philo, mais il n'a pas tellement envie de se réveiller le matin trop tôt. Il pratique la philo en amateur.
Oui.
Alors, il parle une langue absolument extraordinaire, qu'on ne parle pas quand même dans les bistrots de Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui. et qu'on parlait pas en 1980 non plus.
Non, mais c'était pas mon but d'imiter la réalité d'une manière littérale, mais plutôt de chercher une réalité cachée dans la réalité. Et c'est bien sûr là où on entend seulement le son, sans les images, mais ces dialogues sont toujours destinés à produire une énergie, disons à éveiller une énergie intérieure chez les acteurs qui les disent. Et donc, c'est cette énergie que capte l'image, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, en fait, là, c'est la copine de Pascal, donc c'est pas la chanteuse qu'on voit plus tard. Il y a deux couples, donc, qui sont croisés. Mais oui, parce que le personnage de Pascal, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ses études en tant que tel, mais plutôt à ce qu'il y a dans la littérature. Il s'intéresse à la poésie, par exemple.
Comment puisez-vous l'idée de vos personnages qui sont effectivement des êtres en devenir souvent, qui sont comme ça entre rêve, hypnose et réalité?
Oui, parce que je crois à la notion du destin, et donc ce sont des êtres qui cherchent en fait leur destin ou qui cherchent à comprendre leur destin, qui vivent. Et donc j'aime beaucoup la littérature médiévale, et il y a souvent une notion de quête en fait. Ce sont des personnages qui sont en quête de quelque chose, sans
toujours peut-être en quête d'eux-mêmes d'ailleurs. Hein?
Oui, c'est ça, sans toujours savoir exactement ce qu'ils cherchent, mais c'est quelque chose, oui, c'est leur propre réalité, c'est le sens de leur existence.
Alors, dans ce second film, Eugène Green, Le Pont des Arts, la musique tient une importance considérable parce que c'est ce qui forme l'habitacle sensoriel de ces jeunes, parce que vous aimez beaucoup filmer aussi des jeunes, c'est-à-dire aussi là, des gens en métamorphose.
Oui, c'est le moment où ils se lancent dans cette quête et qu'ils ne savent pas encore quel sera l'aboutissement de la quête, mais ils savent qu'ils doivent aller quelque part. Et oui, dans Le Pont des Arts, donc la musique joue un rôle puisque ça se passe en partie dans le milieu de la musique baroque, et il y a un morceau de Monteverdi qui joue un rôle réellement très important dans l'histoire.
La musique, en général, dans votre existence, Eugène Green, tient une importance vraiment sensuelle, je dirais. D'abord parce que on a l'impression, en voyant vos films, que quand on fait de la musique de chambre, eh bien, par définition, on est ensemble.
Oui, et d'une certaine manière, donc ça correspond aussi au travail cinématographique, et c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi parce que j'écris beaucoup, et quand j'écris, en général, je suis très heureux, mais c'est un travail que je fais tout seul, tandis que la réalisation d'un film, c'est un travail de groupe, en fait, c'est un travail collectif, et chacun a son rôle, et chaque rôle est important, et donc c'est un peu comme la musique où on travaille ensemble pour créer une seule œuvre, mais c'est une pluralité d'êtres qui contribuent à la création de cette création.
Dans votre troisième film, Le Monde Vivant, Eugène Green, vous allez encore plus loin en abolissant la frontière entre la réalité et le songe. Nous allons en écouter tout de suite un extrait.
Vous n'êtes pas chevalier.
Qu'est-ce qui distingue un chevalier d'un non-chevalier ?
L'épée.
Que faites-vous ici?
Je suis prisonnière.
Dans une chapelle?
Oui.
Pourquoi ne sortez-vous pas par cette fenêtre?
J'ai donné ma parole de rester.
À qui?
À un ogre.
Moi, je me suis échappée de chez mes parents. Mais je ne leur ai jamais donné ma parole de rester. Au contraire, je les ai prévenus que je partirais, dès que je pourrais. Pourquoi l'ogre vous tient-il ici?
Il a tué mes parents, et maintenant je lui appartiens. Il veut m'épouser, mais il est déjà marié. Et tant que sa femme n'aura pas accepté d'être répudiée, il ne peut me toucher.
J'aurais cru que les ogres étaient polygames.
La polygamie est interdite.
Seulement par Dieu. Mais nous vivons dans un pays laïque.
Elle est interdite aussi par les lois Jules Ferry.
Qu'allez-vous faire?
Il y a un chevalier qui a juré de combattre l'ogre et de me libérer de son emprise.
Tout va bien alors?
Je ne sais pas.
Pourquoi?
Une sorcière lacanienne m'a dit que le chevalier qui pourrait retirer l'épée enfoncée dans l'autel de cette chapelle serait maître de mon cœur et qu'il me délivrerait de l'ogre. Mais le chevalier qui est parti me défendre n'est pas maître de mon cœur et il n'a pas retiré l'épée de l'autel.
A-t-il essayé?
Non. Il ne sait pas que cette épée existe.
Pourquoi ne lui en avez-vous pas parlé?
Lui a déjà une épée. Vous, vous n'en avez pas.
C'est vrai.
Venez alors.
On reconnaît là aussi, Jane Green, cette confusion voulue, revendiquée, entre effectivement un monde des songes, un monde de la réalité. Et quand on voit vos films, et particulièrement le monde des vivants, il faut dire à nos auditeurs que cela se passe au cœur d'une forêt, dans une maison qui est coupée en deux. D'un côté, il y a le plancher, avec des personnages qui semblent à peu près réels, en tout cas, qui ressemblent à vous et à moi. Et puis en dessous, il se passe de drôles de choses. Et puis tout autour de la maison, il se passe encore d'autres choses beaucoup plus extraordinaires. Et on entendait tout à l'heure la voix de Robert Bresson. On a l'impression que vous faites du cinématographe et pas du cinéma.
Disons que j'adhère à la définition de Robert Bresson de le cinématographe, c'est une écriture en images et en sons, et donc c'est très loin d'une grande partie de la production qu'on peut voir dans les salles, et notamment ce que j'appelle les bougeons barbares, c'est-à-dire je traduis le terme que les barbares utilisent pour leurs produits audiovisuels par bougeons, et ça effectivement n'a rien à voir avec le cinématographe. Disons, je cherche à être cinématographique dans mon cinéma, comme quand je faisais du théâtre, je cherchais la théâtralité. Je pense que chaque forme d'expression a son essence, et c'est pas la peine d'essayer de faire une chose dans une autre forme. Je préfère utiliser chaque forme d'expression pour ce qu'elle a de plus essentiel, de plus original.
Dans le monde vivant, le personnage principal est un ogre qui n'est pas vraiment rassurant comme tous les ogres. Et puis, il y a deux jeunes gens, nous venons d'entendre leur voix. Et on ne peut s'empêcher de penser à l'univers de Lewis Carroll et de Alice au Pays des Merveilles. Comme si, dans votre démarche cinématographique, Jane Green, vous vouliez franchir un sas, nous faire passer de l'autre côté du monde, le monde de l'invisible, auquel nous n'atteindrons peut-être jamais, mais par fragments, oui, en voyant vos films.
Oui, c'est un peu mon but. Un de mes auteurs préférés, c'est Chrétien de Troyes. Et pour Chrétien, il n'y a aucune distinction entre un repas qui décrit, par exemple, qui pouvait vraiment exister selon les livres de selon les livres de cuisine du XIIe siècle, et puis un château qui disparaît. Ou un ogre. Pour lui, tout cela faisait partie du monde naturel, du monde vivant. Et donc, pour moi, j'estime que un de mes buts, un de mes devoirs presque, c'est de réenchanter le monde, de faire comprendre aux gens qu'il y a des choses cachées dans le monde qui sont aussi réelles que ce qu'ils prennent pour la réalité, mais que notre culture leur a un peu fermé les yeux à ces aspects de la vie.
Comme vous êtes cinéaste, vous êtes obligé d'utiliser des images, et nous, en tant que spectateurs, quand on voit vos images, on ne sait jamais effectivement dans quel registre il faut les interpréter, parce qu'on se dit, c'est peut-être de l'onirisme, c'est peut-être un rêve éveillé, c'est peut-être le reflet de la réalité. Il y a aussi toujours cette diction très particulière de ce français d'une pureté exceptionnelle. Il y a aussi des chevaliers, il y a des armures. On pense aussi un peu à l'univers d'Éric Rohmer.
Oui, je ne pense pas avoir été influencé par Éric Rohmer, mais j'ai une très grande admiration pour lui. Pour moi, c'est le plus grand des cinéastes de la nouvelle vague, et c'est un cinéaste qui, lui, sauf dans Perceval, ou dans son dernier film Astrée et Céladon, qui reste près de ce qu'on considérait comme la réalité, mais il a une façon de faire ressortir aussi des choses au niveau des émotions et des choses qui sont cachées et des choses très profondes aussi, et aussi une façon d'utiliser la parole pour dégager une énergie chez les êtres qu'il filme. Et peut-être quelque part on fait partie de la même famille.
Il y a aussi un désir de comprendre aussi les différentes strates de nos mémoires dans La religieuse portugaise. Comment est né ce projet et quel était votre désir ?
L'idée de ce film est venue il y a très longtemps, enfin le noyau central, il y a peut-être 12 ou 13 ans, et l'idée principale était l'idée d'une actrice française qui va à Lisbonne pour tourner un film inspiré des lettres portugaises et qui est fascinée par une vraie religieuse qui vient prier toutes les nuits dans une chapelle. Et ça, c'est resté comme le cœur du film. Et puis, progressivement, sous l'influence de la réalité de Lisbonne, ça a pris forme.
Alors, dans ce film, on peut, par exemple, entendre des répliques comme celle-ci. Ceux qui parlent de voix blanche dans les films de Bresson doivent être sourds et apparemment n'ont jamais vu de couleur. Il y a sans arrêt dans vos films, Jeanne Green, des références. C'est-à-dire que c'est pas que ça soit un cinéma intellectuel, mais c'est un cinéma de la compréhension de soi-même et peut-être de la volonté de votre part, de nous faire puiser à l'intérieur de nous-mêmes de quoi nous sommes riches sans véritablement le savoir.
Oui, mais ça ne passe pas forcément par des références. Moi, j'utilise les références parce que ça fait partie de moi, en fait. Mais dans La religieuse portugaise, le personnage principal, Julie de Oran, par exemple, c'est un personnage qui se croit malheureux, mais en fait, elle a en elle quelque chose qu'elle ignore, qu'on peut peut-être appeler la grâce, et qui fait que elle fait le bien. Et avec tous les personnages avec qui elle entre en contact, elle leur apporte quelque chose. Par exemple, elle rencontre dans un restaurant, elle rencontre un aristocrate portugais qui la drague plus ou moins, et que sans s'en rendre compte, elle le sauve d'une tentative de suicide. Donc, elle porte en elle cette possibilité de faire le bien et d'apporter la lumière aux autres.
Pour pouvoir comprendre votre cinéma, Eugène Green, il faut peut-être passer par la case théâtre, c'est-à-dire par la case compréhension la plus intime de la langue. Et cette langue, eh bien, c'est une langue racinienne, parce que Racine est peut-être le plus grand prosateur de la langue française. Vous avez fondé un théâtre baroque que vous avez nommé le théâtre de la Sapiens. Nous allons écouter la lecture d'un extrait d'Andromaque, donc par une des comédiennes de votre troupe, Anne Gersande-Ledoux. C'était en 1996.
Je ne t'ai point aimé, cruel. Qu'ai-je donc fait ? J'ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes. Je t'ai cherché moi-même au fond de tes provinces. J'y suis encore, malgré tes infidélités, et malgré tout mes graisses honteux de mes bontés. Je leur ai commandé de cacher mon injure. J'attendais en secret le retour d'un parjure. J'ai cru que tôt ou tard, à ton devoir rendu, tu me rapporterais un cœur qui m'était dû. Je t'aimais inconstante. Qu'aurais-je fait fidèle? Et même en ce moment, toute ta bouche cruelle vient si tranquillement m'annoncer le trépos. Ingrate, je doute encore si je ne t'aime pas.
Alors on est complètement ébahi devant effectivement cette déclamation. Est-ce qu'on peut employer ce mot de déclamation, Eugène Green ?
Oui, bien sûr, ça c'était la base du jeu des comédiens au XVIIe siècle, la déclamation, qui s'approchait du chant et qui donnait à la parole un corps sonore, qui le faisait exister comme quelque chose de physique, en même temps que spirituel, qui lui donnait une existence, comme l'existence d'un être.
J'ai l'impression qu'en 2001, il s'est passé beaucoup de choses pour vous en même temps, parce que vous parliez de votre premier film, Toutes les nuits, qui a obtenu le prix Louis de Luc, et en même temps, vous publiez simultanément un ouvrage extrêmement savant et passionnant, qui s'intitule La parole baroque, et au début de ce livre, vous dites, je vous cite, « Lorsque j'ai commencé à réciter des textes à haute voix, j'ai découvert Louis, et ainsi la possibilité d'entendre la musique et d'apprendre des langues humaines. Celle qui est devenue le lieu de mon existence s'est en fait imposée à moi. Lorsque j'ai abordé la langue française, j'ai eu l'impression qu'elle était déjà un souvenir et que je ne pouvais faire autrement que de la manifester dans le présent. » Donc comment faites-vous, Eugène Green, pour faire le pont, pas le pont des arts, mais le pont de la mémoire entre cette langue française ancienne que nous avons perdu et que vous, vous avez adopté en tant qu'habitant de la petite barbarie, que vous avez adopté quasi naturellement et biologiquement.
C'est une expérience plutôt de souvenir platonicien, puisque Platon dit que nous portons en nous une mémoire qui est antérieure à notre naissance. Et de plus en plus, j'ai ce sentiment donc de porter des mémoires d'autres vies. Et du coup, oui, j'avais l'impression que la langue française était déjà en moi en l'apprenant. La langue avec tout son passé, tout son avenir, mais c'est la langue que j'apprenais. Mais effectivement, pour moi, une langue comporte tout son passé, comme tout son avenir. D'une manière générale, pour moi, c'est une définition du présent. La langue de Racine est aussi présente dans notre langue d'aujourd'hui, et que justement, les gens, quand les gens venaient aux représentations, les 10 premières minutes, ils n'avaient jamais rien vu de ça, ils étaient un peu déroutés, et puis après, ils disaient qu'ils n'entendaient plus la différence, puisque cette langue, elle est là, quand on lit Racine, c'est la langue de Racine et on comprend très bien. Et donc quand on l'entend avec cette diction et cette prononciation, elle retrouve sa réalité en fait. Et cette réalité fait partie de notre réalité d'aujourd'hui, de gens qui parlent français et qui voient le monde à travers la langue française.
La langue est-elle musique pour vous ?
Elle est une musique, et pas seulement une musique, mais la musique, ça fait partie de la langue, et c'est pas quelque chose d'accessoire. Quand une langue vit réellement, c'est un corps sonore, et donc la musique fait partie de la corporalité de la langue.
Nous écoutons la voix d'Éric Romer, c'était au micro de Jean-Pierre Morf. Il va donner sa définition du conte moral, c'est une archive du 1er janvier 1970.
Il me semble que morale ne signifie pas simplement la morale au sens étroit, la moralité, l'éthique, mais tout ce qui concerne la vie de l'esprit, les états d'âme, les caractères. En somme, peut-être que je me considère un tout petit peu dans la lignée de ce qu'on appelait les moralistes.
Nous venons d'entendre Éric Romer définir le cinéma comme finalement une forme de morale. Est-ce que vous acceptez cette définition du cinéma, Eugène Green ? Parce que c'est vrai que quand on voit tous vos films, y compris l'avant-dernier, La Sapienza, puis le dernier qui sort, Le Fils de Joseph, ce sont aussi des contes moraux, d'une certaine façon.
D'une certaine façon, oui. Pour moi, c'est lié aussi à la spiritualité. Donc, c'est quelque chose de plus large. Mais oui, il y a un élément moral dans mes films.
Alors, on vous réduit un peu trop souvent à un cinéaste So French, qui utilise la langue dans toute sa beauté, dans toute sa, entre guillemets, pureté, alors qu'en fait, la prédisposition, je crois, de votre désir de continuer à faire du cinéma, c'est de construire un scénario qui puisse nous entraîner dans des chemins de traverse jamais explorés par les autres cinéastes.
Oui, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas avoir trop de concurrence dans ce domaine. Oui, effectivement, le scénario est très important pour moi et je considère mes scénarios toujours comme une sorte de mythe.
D'ailleurs, vous êtes romancier et poète aussi, hein?
Oui.
Faut pas l'oublier.
Oui, et je conçois le scénario un peu comme un mythe, donc une histoire dont le simple déroulement contient la possibilité de l'expression d'une ou de plusieurs vérités.
Alors, quand vous aviez construit le scénario de La Sapienza, on pouvait se dire, quand on a vu vos autres films, qu'ils sont en résonance avec les précédents et que finalement, tous vos films, et c'est pareil pour Le Fils de Joseph, forme une sorte de constellation où peut-être certains répondent à d'autres.
C'est possible. Bon, ça part toujours de moi et donc forcément, je pense. Mais c'est vrai que peut-être.
Pas seulement parce que ça part de vous.
Oui, c'est-à-dire que peut-être plus que certains autres cinéastes, j'ai une sorte d'unité dans mon travail. D'abord, j'ai un langage personnel que j'utilise dans chaque film. C'est un peu comme Bresson ou Ozu, dans leur maturité en tout cas, tous leurs films sont différents, mais en même temps, ça forme un tout.
Alors, La Sapienza, c'était un film qui se passait, disons, aujourd'hui, et qui avait pour thématique la recherche d'une mémoire et la recherche de personnages perdus. Ça, c'est une de vos thématiques assez obsessionnelles dans votre propre cinématographie, Eugène Green. Mais avec Le Fils de Joseph, ce n'est pas qu'il y ait une rupture, mais en tout cas, il y a une tentative de tordre le cou à la fois à la réalité, à la mythologie et à la religion. Parce que Le Fils de Joseph, eh ben, il faut le prendre au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est vraiment l'histoire du fils de Joseph et de Marie.
Oui, mais c'est
mais il n'y a pas Marie dans le titre, parce que par définition, elle n'a pas fait l'amour pour enfanter Joseph.
Mais c'est
pour enfanter Jésus, pardon.
Jésus. Mais c'est pas l'histoire de Jésus, en fait. Il y a simplement comme vous avez parlé tout à l'heure, de résonance entre mes films. Mais il y a toujours dans mes films des résonances avec notre civilisation, en fait, notre passé culturel. Et donc là, il y a des références bibliques, effectivement, à l'Ancien et au Nouveau Testament. Mais je ne cherche pas à revisiter ou à reconstruire. C'est juste des références en passant, comme les lettres portugaises dans la religieuse portugaise, qui ne sont pas du tout une adaptation des lettres portugaises.
Oui, enfin, il n'empêche que dans Le Fils de Joseph, l'histoire biblique est véritablement restituée, tout en étant retravaillée par séquence, parlons de la forme.
Il y a des références, bien sûr, dans chaque partie, puisque c'est l'histoire, en fait, d'un jeune garçon qui, ou plutôt de Joseph, qui devient père par son fils, c'est-à-dire qu'il n'est pas le père biologique, comme on dirait, de Vincent, donc il ne s'appelle pas Jésus, mais Vincent. Mais qu'il devient véritablement son père, tandis que Vincent rejette, quand il découvre qui est son père biologique, il rejette complètement.
Comment avez-vous construit les scènes qui forment la trame du Fils de Joseph ?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, mes scénarios se construisent comme un mythe. Donc il y a un
Vous les dessinez complètement? Vous faites des storyboards
avant? Non, pas du tout. C'est dans ma tête. Mais par contre, je décris d'une manière très, très précise le cadre, la valeur, souvent la lumière même. Et puis, bien sûr, on met ça en pratique avec Raphaël Auburn qui a fait l'image de tous mes films. Mais le noyau du scénario arrive toujours comme ça dans un éclair. Et puis, je le laisse se développer. Je ne cherche pas dans un premier temps à comprendre, je laisse se développer l'histoire et puis je saisis le sens de l'histoire ou un sens et je le travaille un peu voilà, pour accentuer cet aspect-là. Mais ça s'est mis en place comme ça. Voilà. Le point de départ, c'était l'idée de d'un garçon qui a été élevé très bien par sa mère, mais qui ne sait pas qui est son père, qui est obsédé par ça, puis qui découvre que son père est un salaud, et puis qui trouve un autre père.
Y a-t-il une dimension de contestation, justement, des mythologies dans lesquelles et sur lesquelles nous vivons et nous habitons, et sur lesquelles nous nous fondons pour continuer à vivre à l'intérieur de ce film ?
Disons que ça dépend de ce qu'on veut dire par mythologie au sens de Roland Barthes, par exemple, oui, c'est-à-dire les choses d'aujourd'hui, des sortes de vérités imposées par la société qui ne sont pas des vérités. Donc oui, là, il y a peut-être une contestation. Par contre, je crois à la puissance des mythes au sens grec du terme, c'est-à-dire des histoires qui comportent quelque chose d'universel et d'intemporel et qui peuvent nous révéler des vérités, des choses dans notre vie actuelle, dans notre vie contemporaine.
On rit beaucoup quand on voit le fils de Joseph parce qu'évidemment, vous prenez la trame de l'histoire biblique pour raconter cette histoire des temps modernes, mais il y a chez vous, en tant que cinéaste, un entrelacement de l'hyper-réalisme, par exemple l'histoire de l'âne, on voit vraiment un âne, etc., avec l'expression de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans les temps modernes. Pourquoi faites-vous, dans la même image, cohabiter l'immémoriel avec le ô combien contemporain ?
Parce que justement, c'est pour montrer que l'intemporel est toujours là, qu'il y a certaines choses de notre civilisation qui sont essentielles et qui sont toujours là aujourd'hui, qui sont toujours vraies, mais qui sont cachées par des aspects de la vie contemporaine.
Et le côté satire, le côté rire, c'est quand même aussi pour nous faire réfléchir, parce qu'une fois que le film se termine, on se dit qu'il y a peut-être une leçon d'anti-morale à en tirer.
Oui, bon, la satire, ça aussi, ça me vient naturellement. C'est une sorte de contre-pied de ce qu'il y a de plus sérieux et de plus qui moi personnellement me touche le plus, c'est-à-dire les souffrances des personnages sympathiques et qui se trouvent face à des personnages beaucoup moins sympathiques et qui ont des rôles importants dans la société. Et donc, je me permets de me moquer de ce genre de personnages.
On ne va pas raconter la fin du film, mais on peut dire que comme à chaque fin de chacun de vos films, Jeanne Green, c'est très énigmatique. À chacun de se faire sa propre interprétation. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour que le film continue à cheminer dans nos têtes ?
Disons que, bon, moi je donne une direction quand même à la fin, mais il y a toujours à la fin une irruption directe peut-être du spirituel, et du coup c'est forcément quelque chose de mystérieux. Et je pense qu'une des choses qui nous manque le plus dans notre monde contemporain, c'est le mystère. Donc je cherche à réintroduire le mystère qui est là en fait dans notre existence.
Merci beaucoup. Donc, Le fils de Joseph, le dernier film d'Eugène Green, sort sur les écrans. Merci à l'équipe de Hors-Champ, Jean-Richard Dufour, Corinne Amard, Élodie Royer, Samuel Bernard et Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.